RMC Grand Plateau, Christophe Cessieux.
Salut à tous, c'est un début de saison exaltant que nous sommes en train de vivre, nous les fans de vélo français. C'est même un feu d'artifice que nous convient depuis plusieurs semaines nos jeunes champions, qu'ils s'appellent Magnier, Sexas ou Grégoire, c'est simple, ils nous régalent. Aujourd'hui, dans Grand Plateau, on va donc revenir sur leur dernier succès, notamment du week-end bleu turquoise entre Drôme et Ardèche, où nos jeunes champions ont étonné la galerie. Paul Sexas en dégoûtant la concurrence et en gagnant à la Pogacar, et Romain Grégoire, puncher parmi les plus véloces, qui lui non plus n'a laissé aucune chance à la concurrence. Alors me direz-vous, tout ça c'est bien beau, mais vont-ils pouvoir tenir leur rythme dans les semaines qui viennent face aux vrais, aux grands cadors qui petit à petit sortent de leur grotte, plein d'appétit pour les grandes courses qui arrivent à commencer par les Strade Bianche samedi prochain en Toscane, les Chemins Blancs qui verront notamment s'affronter le roi Pogacar, triple vainqueur de l'épreuve, qui entamera là sa saison et qui sera accompagné, s'il vous plaît, d'un autre monstre, son coéquipier Del Toro, ou encore de Thomas Pidcock, lui aussi ancien vainqueur, de Ben Healy, de Wout Van Aert, et la cerise sur le gâteau, notre petit génie français, Paul Sexas, qui a fait forte impression samedi dernier en gagnant à la Poggi, s'il vous plaît.
Paul Sexas, il va y avoir là un giratoire à bien négocier et derrière il pourra se présenter sur la ligne d'arrivée ici à Guilherand-Grange pour aller remporter cette victoire, cette deuxième victoire professionnelle. Qui est-il? Qui est-il ce Paul Sexas? C'est l'élu, on a la pression. Matteo Jorgensen qui est à plus d'une minute trente de Paul Sexas, voilà, qui arrive au bout de cette ligne droite, qui voit l'arrivée et qui va faire la révérence au public, aux quelques centaines de spectateurs qui sont présents ici en Ardèche à Guilherand-Grange pour l'acclamer. Il est à une centaine de kilomètres de la maison, il se dresse sur son vélo, Paul Sexas, il montre du doigt le ciel et ce maillot Décathlon CMA-CGM, la main sur le cœur, il s'impose, deuxième victoire professionnelle ici sur cette Fondard d'Ardèche classique pour Paul Sexas qui, après un numéro en solitaire de plus de 40 kilomètres, remporte donc cette deuxième victoire professionnelle en carrière.
Voilà, un succès majeur décroché par Paul Sexas qui, semaine après semaine, nous épate, nous étonne. Jusqu'où va-t-il nous emmener? Eh bien, on en débat aujourd'hui avec toute la bande de Grand Plateau, fans énamourés de Sexas. Ça a commencé par Jérôme Coppel qui, sur X, hein, sur le réseau social, taille en pièces tous ceux qui osent encore douter du petit Paul. Hein, et il en fait du petit bois, le cop-cop. Ça va, mon Jérôme?
Salut Christophe, salut à tous. Non, mais je me suis tellement pris entre l'année dernière et avant le début de saison, un torrent, pardon, mais de caca quand je disais certaines choses sur Paul Sexas, je suis content qu'il confirme par ses résultats sur la route.
Eh ben, bravo, c'est bien, la vengeance est un plat qui se mange froid. Également de la partie Pierre Cochette et Pierre-Yves Leroux, j'espère que vous n'aviez pas prévu d'apporter de bémol aux performances de Sexas. Hein.
Bonjour autrement, à tous, autrement, vous si allez on n'a pas, hein. Si pas le droit, on ne le fait pas, mais j'ai envie de lui dire, cherche un arbre et laisse-lui t'apprendre le calme, comme disait ma grand-mère. Hein, du calme, il vient de gagner la Faune Ardèche classique, Paul Sexas.
Ouais. Alors, on va... Ouh là là, il attaque fort. Hein. on va revenir sur le plateau de la Faune classique Ardèche plus tard, monsieur Pérez.
Ne prends pas la perche comme ça aussi facilement.
Bon. Et enfin, il rentre d'un week-end magnifique en bord de Rhône, où on avait déjà vécu un premier épisode très réussi en octobre dernier. C'était lors des championnats d'Europe, rappelez-vous, où Sexas s'était fait un nom en terminant troisième de la course, seulement devancé par Pogacar et Evenepoel. Kevin Morand est avec nous. Salut Kevin.
Salut Christophe, salut à toute l'équipe.
Alors, ce week-end, Kevin, il n'y a pas de Poggi, il n'y avait pas de Poggi, il n'y avait pas de Remco, non. Mais il y avait bien d'autres champions, tels que Jorgensen, Bernal, Martinez ou Skelmose, et que Paul a éparpillé façon puzzle pour s'imposer à la Poggi.
Oui, ses gardes du corps, Noah Isidore et Jordan Labrosse, avaient fait le travail pour bien le placer, puis écrémer le peloton dans cette côte de Saint-Romain-de-l'Air. Matteo Jorgensen était le dernier donc à s'accrocher, et à 42 km de l'arrivée, une gorgée au bidon, un coup d'œil derrière sur Matteo Jorgensen, et puis Paul Sexas s'est envolé dans la même montée où Tadej Pogacar avait donc semé tout le monde lors des Europes. Un tour de force qui n'a rien du hasard. Écoutez Paul Sexas juste après l'arrivée.
Première victoire en France, les sensations étaient exceptionnelles. J'avais envisagé plusieurs scénarios. Si jamais je partais seul à ce moment-là, je savais quelle puissance j'allais faire sur les segments. J'avais déjà bien analysé la course pour pouvoir vraiment tenir le coup. J'avais des jambes de fou. Même quand je suis parti tout seul, j'avais encore beaucoup de puissance. Ça a été extrêmement dur sur le vélo, mais c'est ça qui fait la beauté du vélo.
On avait déjà vu en Algarve que ce jeune leader de 19 ans savait maîtriser la tactique de course face à Ayuso et Almeida. D'autres en ont fait les frais samedi, tu les as cités, Jorgensen, Skelmose, Christen ou Martinez, dans un registre qu'on n'avait pas encore vu de lui en partant d'aussi loin, et même ses parents sont surpris.
Je pensais pas qu'il partirait si tôt tout seul. C'est vrai que c'est une première en fait, il nous impressionne. Et là il gagne en France, bah c'est super, c'est on va dire dans la continuité, mais on pensait pas qu'il allait remettre ça tout de suite.
Je trouve ça complètement fou. Bah, il est parti de loin et je sais pas comment il fait pour tenir, il est en forme.
Voilà, un beau cadeau d'anniversaire pour le papa, c'était ses 50 ans samedi. Et à Guilherand-Grange, la Marseillaise a raisonné. Ce n'était pas un championnat international, mais en octobre, Paul Sexas n'y avait pas eu droit avec cette médaille de bronze. Il a encore régalé en tout cas les spectateurs ardéchois comme Raphaël et Arnaud qui l'attendaient au pied du bus samedi soir.
Le roi de France, on a vu quelques secondes et là on attend le week-end prochain, Strade Bianche. Moi je m'enflamme. Les émotions, j'aime ça. Et on verra s'il nous déçoit dans 3 ans. Tant pis, c'est pas grave. Mais si ça marche, tant mieux. Quoi.
Belle victoire, bel événement, belle journée. Ouais, il a fait une jolie petite perf. Il démarre très fort. Ouais. On espère que ça va continuer sur le même rythme. Ça sera intéressant.
Deuxième victoire professionnelle en 6 jours de course cette saison. Sa deuxième professionnelle d'ailleurs. Cela part en effet sur de très bonnes bases.
Effectivement. Merci Kevin. C'est vrai que cette course a été maîtrisée à merveille. On avait l'impression d'avoir affaire à un vieux briscard. Il avait établi... plusieurs scénarios dans sa tête. Soit il restait à plusieurs et il se serait relayé jusqu'à la dernière ascension dans le Val d'Enfer, soit il partait seul. Et là, on l'a entendu dans le son, il avait calculé à quelle puissance il devait rouler pour pouvoir tenir le coup jusqu'à la ligne. C'est vraiment un garçon...
Ouais, c'est pas très compliqué, en fait. Il a pris le temps de Poggi. Il a, et donc il a suivi et donc à la fin il a fait le même temps que Poggi.
Oui, exactement, il a établi le record de Pogacar.
Donc c'était en fait c'est vrai que c'est pratique cette course parce que comme tu l'as fait comme lui 3-4 mois avant, t'as des repères parce que lui il a vu enfin de loin mais il a dû revoir à la vidéo le gars qui part tout seul en l'occurrence Poggi, comment il était parti, comment il avait réussi à garder le rythme, où est-ce qu'il s'était reposé, encore une fois avec des guillemets, où est-ce qu'il avait accéléré. Et lui a connu le scénario où il se retrouve dans un petit groupe à trois et il faut attaquer au Val d'Enfer. C'est ce qu'il avait fait pour obtenir la médaille de bronze. Donc en fait, il avait déjà, oui, il avait plusieurs scénarios en tête parce qu'on les avait déjà vécus à différents niveaux lors des championnats d'Europe. Et il a après pu suivre le plan, parce que c'est facile d'avoir les scénarios en tête.
Hein. Il faut avoir les gens pour le faire.
Et si moi je peux le faire, je peux regarder où il faut démarrer, ça va pas mal fonctionner. Je trouve que ce qui est surtout impressionnant, enfin, je sais pas ce que vous en pensez, moi ce qui m'a marqué, alors c'est sûr, c'est maîtrisé de main de maître, à l'image c'était assez fort,
hein.
Ouais, voilà, c'est ça. Mais je me suis surtout dit, waouh, qu'est-ce qu'il est prêt? Qu'est-ce qu'il s'est bien préparé pour cette saison? Il est là sur ses premières courses, tout est nickel, quoi. Et ça, déjà, c'est bien parce que c'est pas le cas pour n'importe quel coureur. Donc, ça promet effectivement. Et moi, je me suis surtout, dit la prépa, elle est au top.
Ouais, bah la prépa est au top. Moi, ce qui m'inquiète un peu, enfin, ce qui m'inquiète, c'est des grands guillemets, mais c'est que je me dis qu'il n'est pas encore. Non, c'est qu'il n'est pas encore à 100% normalement, parce qu'avec la prépa qu'il a fait, il sait seulement ça. Alors, il y avait le Tour d'Algarve en course par étape, cette course-là. Donc, normalement, le rythme de course, même si on voit que maintenant les coureurs ont de moins en moins besoin de course pour arriver prêt, mais il a quand même encore une marge de progression, heureusement. Donc, les prestations qu'il nous propose, les courses qu'il a déjà gagnées, la manière dont il les a gagnées, que ça soit en Algarve ou ici, quand on peut se douter qu'il n'est pas encore à 100%, ça promet pour la suite. Moi, au-delà du... Enfin, je n'étais pas vraiment surpris qu'il gagne cette Faune Classique Ardèche. C'est vraiment la manière avec ce périple de 40 km tout seul. Mais moi, l'image qui m'a le plus marqué, c'est qu'il était tellement fort qu'il lâche Jorgensen sans s'en rendre compte, quoi. Il est en train de boire un coup et l'autre, il fait le drapeau derrière, il tient le gouvernail, il essaye de s'accrocher comme il peut. Pour dire l'écart de niveau. Et il lâche pas le pimpin du dimanche. Jorgensen, c'est quand même pas le premier venu.
Oui, enfin, Jorgensen, il n'a pas gagné une course. Il n'a pas gagné une course depuis 2 ans, Jorgensen.
Il a gagné Paris-Nice. Dans ce cas-là, Paul Sexas n'a pas encore gagné une course d'une semaine. Dans ce cas-là,
non, mais
c'est quand même le lieutenant numéro 1 de Vingegaard. Il ne peut pas dire qu'il lâche un pimpin. C'est pas un pimpin, Jorgensen, même si c'est sa première course.
Non, mais c'est quoi le palmarès de Jorgensen?
Ouais, deux fois par
il a levé les bras. Non, mais je vous parle
alors, d'accord, alors c'est quoi le palmarès de Paul Sexas? Une faute classique et une étape à Algarve.
Non, mais.
Mais attends, dans ce cas-là, tu peux prendre ça pour n'importe qui.
Je veux dire, ça fait 2 ans qu'il n'a pas levé les bras en dehors d'un chrono. c'est pas non plus un coureur voilà, qui casse tout, quoi.
Non, mais c'est un super coureur, particulièrement de course par étapes. Le problème, c'est que c'est, je pense, le pire coureur au sprint du peloton. Donc forcément, pour lever les bras, c'est compliqué. Il faut qu'il arrive tout seul, comme à travers la Flandre. Mais en l'occurrence, là, il l'a largué en montée sur un facile, terrain facile. Où Jurgensen est difficilement battable. Il n'a pas qu'il l'ait battu au sprint comme Romain Grégoire le lendemain, ça normal en fait. En revanche, le lâcher en montée, alors il se lève un peu les fesses de la selle au moment où il le lâche, mais à peine. Sinon, ouais. on était vraiment sur l'attaque version Poggi. C'est quand même très fort. Et là où ce qui est encore plus fort, à mon sens, au-delà de l'attaque, au-delà de lâcher quand même tout le monde, ce qui est pas donné, ce qui est donné à personne à part lui, ça a été la descente derrière. Le temps qu'il prend, il le prend énormément dans la descente où il a tout optimisé, les trajectoires, la reprise de vitesse. Il prend un temps de dingue dans la descente, comme Pogacar l'a fait dans pas mal de courses. Et c'est ça qui, moi, m'a le plus impressionné, parce que c'est des risques, mais c'est des risques calculés. Et il faut effectivement être en confiance dans son vélo, en confiance dans sa machine. Et ces risques-là, derrière, les trois ne les ont pas pris. Et donc, c'est ça qui, pour moi, est la marque et là où il a fait vraiment la différence. Et c'est dans cette confiance en lui et en sa façon de
conduire. Non, mais moi, je ne néglige pas du tout la maîtrise et dans son discours aussi, quand il dit effectivement, j'avais étudié, je savais quelle puissance il fallait développer pour lâcher. Il a fait une course parfaite, il n'y a pas à dire. Simplement. Voilà.
Je trouve que l'adversité n'était pas, ouais, pas celle qu'il y aura
il est
samedi
battu
prochain.
Par Grégoire le lendemain. Voilà, c'est pour ça que je dis soyons calmes. J'ai l'impression que tout le monde s'enflamme. Alors forcément, c'est bien, c'est chouette. Il y a un coureur et on sait qu'il y a un potentiel
énorme. On s'était déjà enflammé en octobre dernier alors qu'il avait terminé troisième, mais
bien
battu
sûr,
par Pogacar et Evenepoel.
Non, alors, mais ce qu'il y a, c'est j'ai hâte d'être à samedi prochain.
Oui, bien sûr.
Franchement,
Lenny Martinez d'ailleurs pour confirmer ce que tu viens de dire disait dans le groupe de trois qui roulait derrière lui, ce qui m'impressionne, c'est qu'après il a encore pris énormément de temps alors qu'on était trois à rouler derrière et qu'on lui reprenait rien. Bien au contraire, ils continuent à nous lâcher. Hein.
Ouais, alors les trois ont pas mal roulé. À un moment, ils ont un peu moins roulé à fond parce que eux, ils avaient une course le lendemain, ce que n'avait pas Sexas. Donc Sexas, ils pouvaient tout donner sur les 40 bornes. Et par ailleurs, il leur a pris du temps en descente. Et à partir du moment où il y avait plus d'une minute, en fait, derrière, ils auraient eu du mal à le reprendre, même s'ils auraient pu reprendre 30 secondes. Mais ils ne pouvaient pas, en se mettant tous les trois à jouer franc jeu, ce qui n'est pas forcément le cas quand t'es à trois. Donc, à partir du moment où il y a eu une minute, c'était plus, ils n'étaient plus à fond non plus. Mais néanmoins...
Ouais, mais attends, Pierre, ils pensent à la course du lendemain parce qu'ils se rendent compte qu'ils ne vont pas reprendre le Sexas. Parce que quand tu es dans la course et que potentiellement tu vois que tu vas pouvoir aller chercher le mec qui est devant et te jouer la victoire, tu ne penses pas que tu cours le lendemain.
Oui.
Tu penses à essayer d'aller gagner la course-là. Donc, c'est qu'au moment où ils ont vu qu'ils étaient battus, que Paul leur reprenait du temps même s'il était tout seul, là, OK, ils ont commencé à se regarder et à économiser un peu leur énergie pour le lendemain. Ça,
oui, je te dis, il prend du temps dans la montée un peu, dans la descente beaucoup. Et parce que il y allait à fond et que les autres un peu moins dans la descente et qu'après sur le plat et sur le Val d'Enfer il y avait pas vraiment moyen de lui reprendre autant de temps même à trois.
C'est là où c'est fort aussi parce que
Yann Christen après la ligne d'arrivée il se demandait vraiment comment il avait fait pour prendre 1 minute 48 alors qu'ils étaient trois derrière à rouler et Lenny Martinez nous a dit qu'il les avait roulés à fond. Alors après, oui, bien sûr, il pensait peut-être certains, notamment lui, à la course du lendemain déjà, mais en tout cas, il y avait une vraie interrogation sur comment ce mec tout seul devant avait pu, sur 40 bornes, leur prendre quasiment 2 minutes sur E3.
Mais très vite, et Kevin, ça aussi, toi, tu dois l'entendre en bout de ligne, c'est qu'il va très vite rentrer dans le cerveau des autres. Très vite, les autres vont se dire, ça y est, il est parti. Il est parti, on va pas y arriver en fait. Un peu ce que vit le peloton avec Pogacar, quoi. Voilà.
Ouais, et puis d'une certaine manière, il est peut-être déjà un peu rentré dans leur tête parce que le problème est Pierre là a déjà pointé du doigt certains trucs. C'est que Paul, il a pas vraiment de lacunes dans sa panoplie de cyclistes. il frotte bien, il descend très bien, il roule très bien en chrono, il grimpe très bien, parce que si vous avez un coureur qui est un excellent grimpeur mais qui avance pas en chrono ou qui roule pas bien, bah au pire, s'il vous prend un peu de temps dans les montées, derrière, si vous êtes deux ou trois à bien vous relayer, vous allez pouvoir le reprendre. Mais bien sûr, lui, quand il va lâcher un peu des mecs dans les bosses, qu'on a vu ce qu'il a fait ce week-end à la Faune Classique, bah bien sûr que les gars ils vont commencer à cogiter, se dire purée, vu comment il descend, vu comment il roule, faut pas qu'on lui laisse 5 mètres, sinon on va jamais le revoir.
Bon alors, s'il avait un défaut, s'il y avait un truc qui est pas au top des tops, ce serait lequel? Il faut bien chercher.
Non, mais son défaut.
Est-ce qu'il a la giclette, par exemple, d'un Poggi?
On a vu au sprint avec Ayuso quand même.
Au sprint, il a battu Ayuso. Mal, hein. Il a perdu contre Yarno Widar plusieurs fois sur le Tour de l'Avenir. Bon, il était malade. Son vrai handicap pour l'instant, c'est qu'on ne l'a pas vu se planter. On ne l'a pas vu atteindre sa limite. Donc en fait, tant que tu connais pas, tant que tu connais pas ta limite, ça reste un handicap en fait, parce que tu sais pas si tu vas y aller ou si tu vas pas y aller, jusqu'où tu peux y aller. Là encore une fois, c'est une course qu'il avait déjà fait il y a 4 mois, donc il avait les repères sur les Strade Bianche. Il y aura pas de repères. Donc quand Poggi va partir, il va se dire j'y vais pas, je risque d'exploser, je risque.
On va pas se poser de questions, t'inquiète pas.
Mais très longues montées, peut-être. Des cols très très longs.
Sur les championnats du monde, la course en ligne des championnats du monde, il a peut-être un peu montré des limites, non, ce jour-là, il me semble rappeler, non, je sais plus.
Ouais, alors faut aller gratter quand même. Parce que son premier championnat du monde, sa première course, 200 kilos, Rwanda.
On cherche vraiment la petite bête, là, Jérôme.
Ouais, on cherche la petite bête, mais Pierre a raison. Pour l'instant, on voit pas vraiment de points faibles, il en a certainement. Alors, il peut déjà progresser partout, ça c'est certain, il a que 19 ans, mais on ne voit pas de points faibles flagrants. Chez certains, si on prend Thibaut Pinot à l'époque, qui était aussi le grand espoir, alors j'étais pas forcément d'accord avec ça, mais
un peu ses qualités
de descendeur, mais ça, c'était pas complètement vrai.
Il a fait des progrès par la suite, mais c'est vrai qu'au début, c'était quand même pas trop ça, les descentes.
Oui, mais parce qu'on avait des images, une fois, il se fait sortir par Nibali, on va pas refaire l'histoire de Pinot ici, mais par contre, quand il y avait des ou sous la pluie, il descendait très bien Thibaut Pinot. C'était pas non plus sa grosse lacune. La plus grosse lacune pour moi de Thibaut Pinot, c'était son placement, par exemple, de frotter. Ça, c'était une lacune qu'il avait, que Paul a pas l'air d'avoir pour l'instant, même si au Strade Bianche, on verra ça un peu plus dans le détail, parce que les Strade Bianche pour attaquer les secteurs empierrés, c'est pas la même chose que d'attaquer bien placé le Val d'Enfer non plus, et la concurrence sera pas pareille. Donc faut voir, mais pour l'instant, il y a rien qui saute aux yeux dans la panoplie de Paul pour se dire ok, ici il y a un défaut à aller travailler, quoi.
Alors on n'a pas trouvé de défaut, mais on trouve quand même la marque de fabrique de certains coureurs qui s'appellent Pogacar et Van Der Poel. C'est comme ça qu'ils gagnent. Hein, habituellement, c'est comme ça que Van Der Poel a gagné ce week-end le Nieuwsblad. C'est comme ça que Pogacar gagne toujours, c'est-à-dire en solitaire, après 40 ou 50 kilomètres tout seul. Il s'échappe et plus personne ne le revoit. Est-ce que la comparaison avec Pogacar vaut pour tout le monde? Écoutez ce qu'en dit Sébastien Joly, qui est directeur de la performance de Decathlon CMA-CGM, que Kevin a rencontré à l'issue de la course.
J'aime pas trop les comparaisons, en fait. Je dirais que c'est plutôt un style de courir qui a évolué depuis ces 5 dernières années. D'autres coureurs utilisent ce même type de stratégie, et je crois qu'il avait besoin et voulait aujourd'hui voir s'il en était capable. Je crois que la réponse a été plutôt oui.
Donc on va pas le comparer à Pogacar, mais bon, quand même, oui, quoi.
Non, mais oui, mais c'est vrai que c'est un style aussi. Par exemple, Mats Pedersen qui a fait exactement la même chose sur Gent Wevelgem l'année dernière, ce qui est pas non plus une course pogacaresque. Donc on peut le faire même sur des classiques. Il y a une histoire de vent, il y a une histoire de mais c'est vrai que ce nouveau style de je pars de loin et après je garde le rythme le plus longtemps possible. Pour ce type de coureur-là, ça devient faisable.
Jérôme, t'adorais partir comme ça, toi, t'échapper un peu.
Sur les chronos.
Sur les chronos, c'était là où ça allait bien. Non, mais c'est vrai que si pour parler de mon époque, ça se faisait pas. Moi, je suis de l'époque Sky, où ils attendaient le dernier moment pour attaquer et ils gagnaient à coups de seconde. Alors, cumulé sur 3 semaines, ça faisait des minutes, mais on n'avait pas ce style de coureur. Et là, t'en as cité quelques-uns, mais on oublie un peu vite Remco Evenepoel. C'est lui aussi qu'on a fait. qu'on a fait des raids. C'est vrai que là, quand on parle de Paul Sexa, ça va tout de suite, on vient le comparer à Pogacar ou à tous les phénomènes, et on entend un peu moins parler de Remco Evenepoel depuis quelques temps. Mais lui en a fait aussi. Mais ça, c'est voilà, bah, c'est Van Der Poel, tu l'as dit, Pogacar, Remco Evenepoel, c'est eux qui ont amené un peu ce nouveau style. Mais tu peux amener ça si t'es un coureur au-dessus de la moyenne, quoi. Parce que sinon, tu peux tenter, tu vas te faire rattraper, et on va même un peu te prendre pour un con et dire, t'as, il a couru comme un pied, s'il était resté attaqué un peu plus tard, il aurait peut-être gagné, quoi. Donc ça, c'est une bonne stratégie, comme d'habitude. La stratégie, elle est bonne quand tu gagnes. Et pour faire cette stratégie, il faut avoir deux jambes au-dessus de tout le monde, quoi.
Samedi, l'image était forte parce que ça se passait en même temps. On avait les écrans et d'un côté, on avait Paul Sexa
et de l'autre côté, Van Der Poel,
qui était tout seul dans l'exercice également. Ouais. C'était amusant.
Sachez donc, on l'a évoqué tout à l'heure, que lors de l'ascension de la montée de Saint-Romain-de-l'Herpes, eh bien, Paul a tout simplement égalé la perf de Poggi, établie en octobre dernier, 16 minutes 18 pour gravir les 6 800 km à 7,3% de moyenne, à une moyenne de 25 km/h quand même. Hein. Et n'hésitez pas, si vous voulez aller défier ce record, si le cœur et les jambes vous en disent. Jérôme, Pierre, ça vous
donne un petit problème de timing, de temps, là, d'emploi du temps, en fait. Mais sinon, j'y vais.
T'essaieras, toi, avec ton vélo électrique, voir si tu y arrives, même avec ton vélo électrique.
Dans
si
la descente, je peux peut-être faire les 25 km/h.
Ah ouais, avec l'inertie, ça va pas mal dans ce sens-là, pourtant.
Ah, c'est moche. Non, t'es pas sympa, Christophe.
T'es pas sympa. Je vais t'attaquer sur Twitter, tu vas voir.
Bien sûr que c'est une perf incroyable. Après, c'est toujours difficile de comparer quand c'est pas les mêmes courses, mais de se dire qu'il a. Parce que quand on. Au championnat d'Europe, quand on a vu Pogacar s'envoler, on a dit la perf incroyable, les watts par kilo, la puissance, etc. C'est dingue. Et finalement, quelques mois plus tard, Paul Sexa arrive à faire la même chose. Donc ça, c'est encore de bon augure pour nous, quoi, pour nous. Mais tu vois, avec ce petit Paul.
En octobre, on se disait justement, et si il n'avait pas tenté de le suivre un peu plus, parce qu'on sentait qu'il aurait bien aimé, mais qu'il s'était retenu. Donc je pense que le fait de, voilà, de se dire allez, je vais voir si je peux le taper quand même.
On va en parler tout à l'heure parce qu'il y a une course qui arrive et on va se demander justement quelle stratégie adopter pour Paul Sexa. Si nous sommes évidemment dithyrambiques, nous les Français, concernant les prestations de Paul, on n'est pas les seuls. Pierre-Yves, la presse cycliste internationale n'a que du Sexa à la bouche depuis quelques semaines.
Hein. Ha nacido una estrella, une étoile est née, c'est le journal AS qui titrait ainsi samedi matin sa présentation de la faune Ardèche classique. Et ça tombe bien, car après la course, le quotidien a décidé de prolonger la ficelle astronomique en expliquant que le ciel était sa limite à l'issue de la démonstration du jeune coureur français. C'est une véritable révélation, un exploit rare de nos jours. Ses limites, seul l'avenir nous le dira, écrit le quotidien madrilène. Même son de cloche chez le concurrent Marca, soulignant le signal fort envoyé au reste du peloton, alors que la plupart des coureurs pensent que le seul moyen de gagner est d'éviter Pogacar sur leur calendrier, c'est que Sas adopte une approche différente. Il ne se cache pas, il ne cherche pas à gagner en l'absence des meilleurs. Et outre-Manche, Cycling News s'amuse également de la comparaison, je cite, ce jeune Français qui affiche la même énergie que Pogacar. Et le quotidien belge Het Nieuwsblad s'est également emballé après la victoire de samedi en Ardèche et a évoqué une performance magistrale. Et outre-Atlantique, cette fois, on n'a pas attendu le succès de samedi pour s'intéresser à la pépite de Decathlon CMA-CGM, puisqu'en juin dernier, et il y a une semaine seulement, Paul Sexa a eu le droit à des articles dans le prestigieux New York Times, une place qui est quand même, vous l'avouerez, très rare pour les sportifs français. Donc, ça montre effectivement que la planète cyclisme, et pas que la planète cyclisme, s'intéresse fortement à notre pépite.
Eh bien, tant mieux. D'ailleurs, Kevin, je ne sais pas si tu es toujours avec nous. Comment est géré Paul Sexa? Alors, on l'a vu lors des championnats d'Europe, c'était l'encadrement de la Fédération française. Il a répondu à beaucoup de questions, c'était la fête et tout le monde pouvait lui parler. Est-ce que là, en vue des stradés qui auront lieu dans quelques jours, est-ce qu'on a essayé justement de limiter tout ça? Est-ce qu'il est déjà bien encadré et où on le laisse encore pas mal de liberté?
Alors on en avait parlé la semaine dernière, il a désormais une attachée de presse qui va le suivre sur toutes ses courses, là où il sera, au sein de Decathlon CMA-CGM, qui est une ancienne journaliste de l'équipe, qui est une expérimentée aussi, donc voilà, ça permet de mettre aussi du cadre et de bien l'accompagner sur toutes les sollicitations qui sont nombreuses. Et puis il y avait aussi, puisque c'était une course en France, le directeur de la communication de l'équipe qui était là samedi en Ardèche pour encore mettre du renfort et vraiment essayer de limiter au plus les sollicitations parce qu'il y a beaucoup de demandes de selfies, beaucoup de demandes d'autographes, de signatures sur un bidon, un t-shirt, etc. Des gens qui lui demandent une casquette. Donc voilà, ils essayent de créer aussi une une petite bulle, un petit sas autour de lui pour éviter qu'il y ait trop de sollicitations, parce que ça dure déjà beaucoup de temps les protocoles après une victoire ou un podium. Donc voilà, pour essayer d'optimiser tout ça, parce que déjà il est parti de Gil Rangrange plus d'une heure après l'arrivée samedi, entre les interviews, l'antidopage, etc. Donc voilà, ça prend du temps et c'est aussi ce qu'il doit apprendre à gérer avec ses performances désormais.
Et ça va pas s'arranger, on se rappelle de l'été dernier, de l'énervement de Pogacar lorsqu'il devait répondre au sempiternel interview après course, notamment avec le maillot jaune sur les épaules.
Fait de la belote, hein.
Alors, tout cela est évidemment très excitant, messieurs, parce que le maître du cyclisme, justement, s'il n'a pas prévu d'affronter dans l'immédiat ses rivaux habituels, va devoir se frotter aux petits Français, et ce, dès samedi prochain, sur les chemins blancs de Toscane. Estrade Bianche, considéré presque comme un monument, et que les champions adorent, Poggi le premier, lui qui l'a gagné à 3 reprises. Alors, que va-t-il se passer samedi prochain? Au vu de sa forme actuelle, que peut espérer faire Sexas? Quel scénario envisagez-vous, messieurs? C'est à vous de vous mouiller. On va commencer par toi, Pierre. Tiens, allez. Alors, qu'est-ce que tu imagines?
Moi, alors, la différence par rapport au championnat d'Europe ou à d'autres courses où il y a eu Sexas et Pogacar, c'est que Pogacar n'est pas tout seul. Pogacar a amené son meilleur ami et qui lui aussi a de la dynamite dans les jambes, Isaac Del Toro. Et que donc, je les vois bien faire un petit numéro à deux. Et donc, si Sexas veut faire quelque chose, il va falloir s'accrocher au basque des deux, des deux UAE. Et auquel cas, s'ils sont deux, il va aussi pouvoir ne pas trop en faire. Mais
ça, ce serait bien. Donc, une attaque de Poggi avec Isaac dans sa roue. Il ne va pas trop forcer, parce qu'autrement, il va faire péter Del Toro. Et donc, Sexas va pouvoir s'engager dans la
et on part à trois. Et on part à trois. Ouais, et après, on essaie de tenir au maximum.
Bon, Jérôme, est-ce que ça te semble plausible comme scénario?
Oui, ça me semble plausible. Après, je pense que Del Toro va se sacrifier pour Pogacar et qu'à un moment donné, il restera que Pogacar et Sexas, et bien sûr que Pogacar arrivera à lâcher Sexas à la fin. Mais je pense que Paul, à l'inverse du championnat d'Europe par exemple, où peut-être il s'était relevé pour pas exploser, t'as quand même des médailles en jeu sur un championnat d'Europe, tu cours pour ton pays, etc. Ouais. C'est un petit peu différent. Là, je pense qu'il va vraiment vouloir s'accrocher le plus loin possible à Tadej Pogacar, aller tester ses limites justement sur une course qu'il connaît pas face au goat du vélo. Et là, je pense qu'il va vraiment essayer d'aller le plus loin possible. Je pense quand même que Pogacar arrivera à le lâcher, mais moi je vois bien un podium Pogacar 1, Sexas 2 et Del Toro 3. Quoi. Après, bien sûr, il y a toujours les impondérables de la course, hein. Ça reste des chemins blancs, des crevaisons, une chute, on l'a vu avec Poggi l'année dernière. Il y a plein de choses qui peuvent arriver, mais si tout se passe bien, c'est un podium qui a de la gueule, et j'aimerais bien voir Paul Sexas donner un peu de fil à retordre à Tadej Pogacar.
Il faut qu'il se mette dans le dur, il faut qu'il aille chercher justement ses limites, t'en parlais tout à l'heure, Pierre-Yves, c'est la course pour.
Oui, moi je suis d'accord avec Jérôme sur le début de son pronostic, c'est-à-dire qu'il va tout faire pour s'accrocher le plus possible, et il a bien raison, il faut se tester, il faut voir jusqu'où ça peut aller. Mais à l'arrivée, en revanche, Pogacar va mettre 2 minutes ou 2 minutes 30 à tout le monde. Ça sera sans surprise, je pense qu'il y a encore une grande marge, et heureusement, j'ai envie de dire, par rapport à Pogacar. Donc oui, qu'il se teste. En plus de ça, effectivement, on n'est peut-être pas seulement sur une individualité, mais un duo qui va tout faire exploser. Ça sera très compliqué derrière de s'accrocher très très longtemps.
Mm-hmm. Par contre, moi, je serais pas surpris de voir Pogacar vouloir taper encore une fois très fort du poing sur la table, parce que aussi, il est comme nous, il lit, il entend qu'il va donner du fil à retordre. Et je pense qu'il veut montrer qu'il est encore une ou deux jambes au-dessus du petit Français qui arrive, parce qu'il aime bien ça. Lui doit être content de voir Sexas qui arrive, le voir courir comme ça, parce qu'il a un nouveau copain qui va rentrer dans le jeu avec lui pour s'amuser un petit peu, et qui va pouvoir lui mettre des baffes. Exactement, il va prendre le petit frère, lui mettre 2-3 fessées, et lui dire faut encore aller un petit peu.
C'est comme Obélix, et Obélix, et après, il adore voir des Romains arriver comme pour leur faire des battes. Bah, c'est pareil.
Sauf que là, c'est un Gaulois.
Alors, moi, vu ce qui s'est passé au dernier Giro, où, souvenez-vous, Del Toro avait fait toute l'étape des chemins blancs en tête pour se faire doubler dans le dernier virage par Wout van Aert, qui lui avait sucé la roue vraiment les 70 derniers kilomètres. Je pense que Pogacar va laisser gagner Del Toro s'il a l'occasion, va lui offrir. Il a déjà gagné 3 fois cette course, 3 ou 4,
ça ne changera
pas grand-chose. S'ils arrivent à 2,
oui.
Et je pense qu'ils arriveront à 2, il va le laisser gagner.
D'accord.
C'est possible aussi. Hein.
Ah, c'est possible, c'est un seigneur. Hein. Et puis, ils ont l'air de bien s'entendre en plus, ces deux-là. Donc,
alors, c'est un seigneur, d'accord, mais il faut avoir après les jambes pour pouvoir le suivre. Il faut pouvoir l'opportunité qui te laisse gagner. Mais Del Toro, bien sûr, il est largement capable de le faire. Quoi.
Comme un McNulty Pogacar à Montréal en septembre.
On rappelle aussi, c'est la première course de la saison pour Poggi. L'année dernière, il avait déjà 2-3 victoires dans son escarcelle avant de débarquer en Toscane. Est-ce que ça peut aussi changer sa façon de voir les choses?
Non, l'année dernière, il attaque avec ça.
Non, il avait fait l'UAE, je crois, l'année dernière.
Non. Est-ce que, enfin, il y a deux ans, il avait fait l'UAE et il est parti à 4 points.
L'année dernière, c'est sa première course.
L'année dernière, par les Estrades. D'accord. Bon, j'ai rien dit alors. Mais est-ce que vous le voyez partir comme il y a deux ans, justement, à 80 bandes de l'arrivée, ce qui avait été jugé complètement suicidaire à un moment, mais finalement, il s'était imposé avec 2,44 d'avance, je crois.
Partir loin, oui, mais pas tout seul.
D'accord.
Enfin, après, encore une fois, si personne n'a crevé, si personne n'a... Mais partir avec Del Toro, voir Sexas, ouais.
Ouais, bah là, ils vont mettre une... Avant, il était un peu tout seul dans son équipe. Donc, de toute façon, quand il attaquait loin, il savait qu'il allait partir tout seul. Là, il y a quand même Del Toro avec lui. Ils vont pouvoir mettre une petite stratégie en place. Et bien sûr, dans un premier temps, s'il décide d'attaquer loin de l'arrivée, s'il veut encore plus assurer le coup, bah, faut qu'il parte avec Del Toro. Parce que comme ça, ils vont pouvoir se relayer, s'économiser un petit peu et puis avoir plus d'énergie dans le final. Donc oui, là, ils ont encore un peu plus de cartes en main et c'est encore un casse-tête un peu plus compliqué pour les autres parce que on a fait plusieurs scénarios et il y a un scénario où Pierre dit bah, peut-être qu'il va laisser gagner Del Toro. Nous, on dit bah, Pogacar, il va écraser tout le monde et il va finir tout seul. Et quand tu es les autres équipes, bah, tu mises sur qui? Plutôt Pogacar, plutôt Del Toro? Est-ce que Pogacar va pas bluffer un petit peu et justement laisser sa chance à Del Toro? Et est-ce que c'est pas Del Toro qui va aller faire un raid tout seul finalement et faire un petit numéro. Enfin voilà, eux, c'est eux qui ont les cartes en main pour samedi. Quoi.
Et la il avait bien fait l'UAE Tour l'année dernière.
Et la stratégie de l'équipe Decathlon sur cette course, il va falloir être très attentif.
Il dit qu'il... Voilà, en gros, il est tout seul. Quoi.
Polo
J'ai bien compris. Ouais.
Ah ben, Polo, il va falloir se faire protéger pendant les 100 premiers kilomètres et puis après, prendre la roue des deux UAE et pas la lâcher.
Il aura Paul Lapeyrat qui sera avec lui pour Lapeyrat, Sébastien
Nicolas Prodhomme aussi, je crois, qui sera à ses côtés aussi.
Oui, et Mühlberger, il me semble, et Jordan Labrosse aussi, qui était justement là pour comme rampe de lancement dans la montée samedi de Saint-Romain-de-l'Air, qui sera de nouveau là sur l'Estrade Bianche.
Mais autant samedi, il était favori, autant là, il est moins favori quand même. Il a le droit d'être un peu en outsider et de calquer sa course sur les deux monstres.
Ouais, là, la stratégie, elle est simple. Il faut qu'il protège Paul le mieux possible, Paul Sexas, jusqu'au coup de pétard des UAE. Mais si on prend d'une manière globale l'équipe Decathlon CMA-CGM, depuis le début de l'année, depuis l'Australie, sur toutes les courses, même les classiques là en Belgique, ils courent très bien. Alors, ça ne marche pas toujours. Il n'y a pas toujours la gagne au bout. Mais collectivement, ils courent vraiment tous très bien. Sur tous les fronts où ils sont, hein. D'ailleurs, ils font rarement d'erreurs. Donc, s'ils restent sur cette dynamique-là, parce que le but, c'est déjà que Paul puisse attaquer tous les secteurs pavés bien placés pour pas perdre de temps et d'énergie. Donc s'ils arrivent à faire ça, après, de toute façon, à un moment donné, cette course, elle est tellement dure que ça se fait à la pédale. Donc après, ça sera, si Paul est bien, il arrivera à suivre les deux UAE, voire peut-être mieux. Mais dans un premier temps, c'est de le protéger, qu'il économise le plus d'énergie en attendant le coup de pétard de Pogacar ou Del Toro.
À noter que sur ce parcours cette année d'Estrade Bianche, il y a deux secteurs de chemin blanc en moins et 20 km en moins que l'année dernière. Donc, ils ont fait un peu marche arrière, les organisateurs, alors qu'ils étaient dans un durcissement de la course ces dernières années. Là, ils ont un petit peu atténué, on va dire, la difficulté de ce semi-monument.
Étonnant. Alors que tout le monde durcit les courses, ils réduisent le nombre de chemins blancs. Bon, bah,
64 km quand même au total hein, de chemins blancs sur 203.
Mais ça fait 200 bandes, c'est ça hein, c'est...
Ouais, 203. Ouais.
OK. Ce sera donc la première confrontation de la saison entre le champion des champions actuels et celui dont on espère qu'il lui succédera 20 jours, jour prochain. Les deux garçons se retrouveront ensuite le 26 avril sur les routes de la Doyenne, Liège-Bastogne-Liège, avant peut-être de batailler sur les routes de France en juillet. On le sait, le secret est bien gardé. A priori, nous dit-on, la décision n'a pas encore été prise et elle sera à l'issue des Ardennaises, donc fin avril. Franchement, après ces prestations de début de saison, on a l'impression qu'il est prêt, le petit Paul, messieurs, à scoltiner le Tour de France, non ?
Oui.
Oui. Enfin, on... Il n'y a plus beaucoup d'incertitudes.
On le pensait déjà il y a 6 mois. Donc là, il y a quand même assez peu d'échecs. Assez peu... Après, la seule incertitude, on ne la connaîtra qu'à la fin du tour, c'est comment il tient 3 semaines.
Eh oui,
et ça, tu ne peux pas savoir avant de les avoir fait les 3 semaines. Ça, tu peux le savoir qu'en l'ayant fait. Donc pour moi, tous les voyants... Après, effectivement, tu peux la jouer pisse-froid, tu peux la jouer vieux... Non, je vais pas dire comme ça.
Vieux con.
Non. Ouais. Et tu peux la jouer à l'ancienne et te dire non, mais il faut d'abord commencer par un autre grand tour, par un moyen tour en gros, la Volta après pour.
Un tour de 3 semaines, mais pas du même niveau que le Tour de France.
Voilà. Ou tu.
Qu'est-ce que tu fais si tu te plantes?
Bah, tu te plantes, c'est pas grave. Tu reviens l'année prochaine plus fort. Enfin, c'est le sport. Bien sûr que tu. Il peut se planter, au Strade Bianche, il peut se planter n'importe où en fait. C'est.
Ouais, mais
il
te planter au Tour de France, c'est pas la même chose.
Bah,
C'est la seule année où on va lui tolérer entre guillemets qu'il se plante sur le Tour, parce que justement c'est son premier, il est jeune, etc., etc. Si déjà on n'a pas forcément d'attente ultra précise.
Oh bah on dit juste que c'est l'élu, moi j'ai entendu ça tout le week-end.
Mais c'est l'élu, non,
c'est
pas pour
sûr,
gagner.
C'est pas de pression.
Pas pour sûr. Gagner, mais il aura toujours de la pression, Paul. Il va au Strade Bianche, tu crois qu'il a pas de pression? S'il va à la Vuelta, Giro, ce que tu veux, il a de la pression.
Ah, c'est pas
mais
pareil.
Au Tour de France, il aura de la pression. Mais cette année, on lui demande pas de gagner le Tour cette année, on lui demande d'aller pour
peut-être.
Découvrir. Il découvre. Il découvre. Il va autour, il découvre, il se plante, c'est pas grave. Là, 2027, là, la pression va être tout autre pour lui. Et moi, j'entends très bien les arguments de dire qu'il faut commencer par la Vuelta parce que le niveau est moins haut, etc. Mais s'il se plante à la Vuelta, c'est encore pire. Tu as encore plus de pression cette année en allant à la Vuelta qu'au Tour. Si tu te plantes à la Vuelta, on va dire il n'y avait pas de concurrence, c'est la Vuelta. En plus, il n'a pas réussi. Alors l'élu oublié, c'est pas ça. Il ne gagnera jamais le Tour. On ne verra jamais un vainqueur du Tour de notre vivant. Donc finalement, est-ce qu'il n'a pas moins de pression à faire le Tour de France cette année qu'à aller à une Vuelta, par exemple ? Cette année, moi, j'attends. Oui, j'ai des espérances pour Paul que s'il va au Tour, j'aimerais qu'il fasse ci, ça ou ça. Mais s'il le fait pas, s'il se plante,
mets-lui un peu de pression.
C'est pas grave. Non, je lui mets pas de pression. Non, justement,
pardon, mais c'est pas. C'est pas Jérôme Coppel.
Je vois pas où il a de la pression cette année. Oui, c'est pas moi qui lui mette pression.
Ou Pierre Cottier qui met de la pression à Paul Sexas. Hein. On peut dire ce qu'on veut, on peut penser ce qu'on veut. D'ailleurs, on l'a vu en face de nous. Clairement, ça glissait.
Fou royal.
Voilà. Donc
après il y a ce que tu dégages et ce qui se passe vraiment à l'intérieur.
Oui,
hein,
oui, mais regardez Lenny Martinez, premier Tour de France, il fait absolument rien. Deuxième Tour de, tout le monde l'a oublié d'ailleurs. Et deuxième Tour de France l'année dernière, il fait le spectacle. Il y a son nom sur le bord de la route, maillot à pois. Alors il réussit pas tout, hein, loin de là, mais il y a eu je pense que le public français se souvient un petit peu du Tour de France de Lenny Martinez cette année. Alors même si au final il ramène pas le maillot à pois, même si il gagne pas d'étape, il a fait quelque chose, et je pense que Paul Sexas, son seul.
Alors, vraiment, j'ai le seul peur, truc moi, qu'on s'emballe à l'image de cette société dans plein de choses sur tout de suite. Allons-y, et puis après, si les mecs sont grillés, c'est pas grave, on en trouvera un autre, quoi. On voit
sort
ça quand
de
même.
Sort de ce corps, Cyril Guimard. Sort de ce corps, Cyril Guimard.
Je l'ai côtoyé trop longtemps pour sortir de son corps.
Donc on n'en trouvera pas d'autres. Après, ça marche pas. Tu peux pas savoir si t'essayes pas.
Il faut voir aussi dans quelle configuration et comment on présente ça s'il le fait effectivement, comment Decathlon CMA CGM présente ça, parce que initialement leur fusil pour ce Tour de France 2026, c'était le maillot vert, un gros train de sprinter autour de Livekoi. Donc s'ils mettent Paul Sexas, est-ce que du coup ils changent leur fusil d'épaule? Est-ce qu'ils le mettent en plus avec un petit collectif montagne autour de lui, mais quand même en gardant cet objectif des sprints et des victoires d'étape et du maillot vert? Et du coup là, forcément, il y aurait quand même beaucoup moins de pression autour du classement général pour Paul Sexas.
Raison de plus. Pour moi, d'une, le programme de course de Paul Sexas, ils se sont laissé la possibilité de faire ou le Tour ou la Vuelta. Mais c'est un programme de course d'un mec qui va préparer le Tour de France. Tu vas jusqu'au classique, après tes classiques, tu coupes un petit peu, tu vas en altitude, tu fais tes reconnaissances, tu reprends au Dauphiné ou au Tour de Suisse pour préparer le Tour. Ensuite, ils envoient Félix Gall au Giro. Donc pour le classement général, ils n'ont personne. Mmh. Comme tu dis, Kevin, ils sont sur Olaf Koy. Olaf Koy, d'une, il vient d'arriver dans l'équipe. Deux, il n'a pas encore mis un dossard. 3, donc tu es dans une nouvelle équipe, tu vas sur le tour en tant que leader avec l'objectif du maillot vert, imagine la pression. Si tu amènes Paul, la pression elle va se diviser sur les deux. Paul, il ne sera pas tout seul pour le général et Koy, il ne sera pas tout seul pour le maillot vert. Mais Paul, on n'a pas besoin de lui mettre 6 mecs à côté de lui. Tu peux faire le train pour Olaf Koy et tu peux mettre 3 mecs avec Paul. On n'attend rien de Paul. On ne veut pas qu'il gagne le tour cette année. Donc, on n'a pas besoin de lui mettre une armada à côté de lui. Il lui faut des mecs pour le protéger un peu dans la plaine. Ça sera les mêmes mecs qui vont protéger Olaf Koy. Donc, de toute façon, ça ne change rien. Et il lui faut un ou deux grimpeurs avec lui pour quand il reste 30 mecs, qu'il ait au moins un ou deux coureurs avec lui. Donc, en fait, ça ne change rien, ça.
Tu dis on n'attend rien de lui sur le tour. Est-ce qu'on n'attend pas quand même au moins qu'il se mêle à la bagarre du classement général, au moins sur les deux premières semaines? Après, évidemment, ça peut exploser à la troisième semaine. Mais moi, j'ai bien envie de voir comment, justement, il peut résister et comment il peut s'accrocher et être concentré sur les deux premières semaines avec les mecs du général, quoi.
T'as tout à fait raison, mais s'il explose en troisième semaine, est-ce qu'on va en vouloir à Paul Sexas d'avoir explosé? Donc d'une, on va pas lui en vouloir. Deux, la première semaine, il peut prendre un coup de bordure et prendre déjà 4 minutes et le général, il est plié au bout de 4 jours. Et après, c'est pas grave, tu vas chercher des étapes, tu vas faire des numéros, etc. Enfin, il a rien. Pour moi, je vois pas ce qu'il a à perdre à aller au départ de ce Tour de France cette année. Pour moi, c'est tout à gagner. Il va découvrir ses limites sur 3 semaines. Il va découvrir la plus grande course du monde. Et s'il garde la même forme, et il n'y a pas de raison que sa forme soit différente au mois de juillet que ce qu'elle est là en début de saison, une fois qu'il aura coupé, refait une préparation, etc. Donc, bien sûr qu'il va essayer de s'accrocher pour le classement général. Bien sûr qu'il va le faire. C'est comme ça qu'il va tester ses limites. Parce que s'il part sur 3 semaines, puis qu'il fait un jour sur deux, un jour groupé tôt, un jour il se bagarre, c'est pas tester tes limites sur 3 semaines, ça, finalement. Tu fais 3 semaines de course, mais tu testes pas tes limites sur 3 semaines. Donc,
il va essayer de s'accrocher. Viens l'année prochaine et viens pour gagner directement.
Ah, donc là, c'est pas plus de pression par contre.
Non ?
Moi, je préfère. Si j'étais Paul Sexas, je préférais aller faire un tour comme ça. Et de toute façon, 2027, je viendrais peut-être pour gagner.
Et on l'a vu, Jérôme.
On l'a vu et on le sait, mais bien sûr. Mais si j'étais à sa place, je préférais aller cette année sans pression et revenir en
deux.
De toute façon, 2027, il viendra. 2027, 2028 et tous les autres, quand il sera au départ du tour, il viendra pour gagner. Donc laissons-lui en un où il ne vient pas pour gagner. Parce que s'il va à la Vuelta et qu'il fait podium à la Vuelta ou même top 5, imagine la pression au mois de juillet. Ça sera 2 fois plus que ce qu'il aura cette année. Hein.
Ouais.
Et je ne sais pas si c'est tout bénef pour lui.
Cyril Guimard avait amené Bernard Hinault à 22 ans pour sa première participation au Tour de France.
Et qu'est-ce qui s'est passé ?
Pour gagner, et il a gagné.
Voilà.
Et il est passé pro à quel âge, Bernard Hinault ?
Il est passé pro un peu plus tard.
C'était
une autre époque, évidemment. Mais on posera la question au blaireau quand on le verra. En tout cas, hâte de voir ce que ça va déjà donner samedi pour ces Strade Bianche. Départ de Sienne à 11h40. Arrivé dans la même ville 4h30 plus tard sur la célérissime Piazza del Campo. Après 200 km de route et de chemin, ça s'annonce magnifique. Course à laquelle participera un autre coureur français en pleine forme, Romain Grégoire, qui a fait monter le baromètre des Français au Zénith ce dimanche.
RMC, le baromètre des Français.
Et oui, la folie autour de Sexas aurait pu nous faire oublier une autre immense performance réalisée le lendemain dans la même région par Romain Grégoire, le puncheur de la Groupama FDJ qui l'an dernier avait remporté la classique Ardèche et qui n'a eu qu'à franchir le Rhône pour s'adjuger cette année sa jumelle, la classique Drôme, à un Grégoire épatant et tout sourire derrière la ligne au micro de Kevin.
Ouais, une sensation assez folle. Après un début de saison pas mauvais, mais avec des sensations un peu mitigées. J'étais un peu dans l'inconnu ce matin. J'avais vraiment mal aux jambes en plus après l'Ardèche. Pour être honnête, j'ai même demandé à mes équipiers de pas tout faire sur moi aujourd'hui parce que j'étais pas sûr de mes jambes tout simplement. Et au final, au fur et à mesure de la course, ça allait de mieux en mieux. Et quand j'ai suivi le bon mouvement avec Mathéo à 20 km de l'arrivée, avec l'attrait de la victoire, ça allait beaucoup mieux. Et juste fou de gagner ici après l'Ardèche. J'avais la Drôme dans le viseur cette année, donc je suis juste trop content de faire le doublé.
Voilà, c'est pas mal. Ardèche en 2025, Drôme en 26. Le compte est bon pour Romain, leader de la Groupama, qui compte bien profiter de ses bonnes jambes pour performer dans les semaines à venir avec un programme sérieux. Hein. Strade Bianchi, Milan-San Remo, Grand Prix E3, Tour des Flandres, Amstel, Flèche Wallonne et Liège pour terminer. C'est du costaud. Est-ce que vous le sentez capable de franchir un pas cette saison et remporter des courses un peu plus prestigieuses que celles qu'il a gagnées en 2025? Il a souvent levé les bras, mais dans des courses pas encore de très très haut niveau. Est-ce que Grégoire peut franchir un cap cette année? On rappelle qu'il a que 23 ans, c'est un jeune coureur. Lui,
il
aussi,
a battu qui là? J'ai pas bien vu qui il avait battu.
Il a battu quelqu'un qui n'a pas beaucoup de palmarès, un certain Jorgensen.
D'accord.
Non. Et Martinez.
Alors, pour répondre à ta question, qu'il a l'avantage, lui, par rapport à Jorgensen, d'avoir une pointe de vitesse, une très très belle pointe de vitesse, et de pouvoir très bien passer les bosses. Donc, on ne sait jamais avec lui ce qu'il peut faire. Il est vraiment capable du meilleur comme parfois du pire. Du pire, toute proportion gardée. Mais du coup, moi, je lui souhaite effectivement de gagner l'Amstel, de gagner la Flèche Wallonne, pourquoi pas, ou de gagner une Flandrienne un petit peu vallonnée. Pourquoi pas E3, mais on ne sait jamais avec lui. C'est tout le charme de Romain Grégoire, c'est que tu peux l'imaginer dans plein de situations différentes, mais ça ne marche vraiment pas toujours.
Ouais. Après, on a vu là, quand il gagne, c'était de loin pas le plus fort. Par contre, il s'est accroché, il a son punch, il est très malin, c'est un sniper. Quand il arrive pour la victoire, il se rate pas souvent. Mmh. Souvent, comme tu dis, ben Pierre, quand il se rate, mais il est même pas là pour la victoire, en fait, finalement. Vraiment, quand il arrive pour gagner, il est là. Il a quand même gagné l'étape du Pays Basque, du Tour de Suisse, le général du Tour de Grande-Bretagne. Donc, quand même des courses un peu costauds. Mais oui, Christophe, pour répondre à ta question, oui, il va progresser. Et moi, je suis de l'avis de Pierre, hein, pour quelle course lui conviendrait le mieux, en tout cas sur le papier, l'Amstel, la Flèche, ça c'est sûr. San Remo, bah, ça paraît compliqué avec tous ceux qui a présent, les Van Der Poel, les Pogacar. Mais l'an dernier, il s'est accroché quand même.
C'était le quatrième,
quand il y a eu le gros coup de pétard. Donc s'il progresse, il était quand même pas loin de faire la bascule. Oui, je pense que lui en plus, c'est un mec qui se transcende vraiment sur les grands rendez-vous comme ça, sur ses classiques qu'il adore. Donc il pourrait surprendre. Maintenant, il est encore un petit ton en dessous des autres, bien sûr. Mais s'il continue à progresser, il a quand même un paquet de... Enfin, sa palette lui permet de viser un paquet de classiques. Et ça, on n'a quand même pas beaucoup de Français comme ça.
C'est vrai, quand tu dis c'est un sniper, sur sa victoire, j'ai presque envie de dire on n'est pas inquiet. On sent qu'il va maîtriser. Il est très doué à ce jeu-là parce que l'arrivée n'est pas simple. Il sait parfaitement doser. Il dit, d'ailleurs, je ne me suis pas retourné alors que nous, on voyait à l'écran que le peloton n'était quand même pas très, très loin. Et ça, il est fort vraiment à ce jeu-là. Il n'a que 23 ans. Donc, je pense qu'il va en claquer des belles encore. Je suis plutôt confiant.
On lui souhaite en tous les cas, il nous a bien régalé. Ils nous ont régalé ce week-end, donc entre Drôme et Ardèche, et Kevin a vu deux victoires françaises en deux jours. Je ne sais pas si ça t'arrivera souvent comme ça, Kevin. Hein.
On en profite.
Il faut bien en profiter. Week-end.
Avec Paul Magnier qui.
Ah ouais, voilà. On l'attendait, là aussi, Paul Magnier, qui après ses deux succès d'étape dans le Tour d'Algarve, attaquait la saison des classiques. Et ça ne s'est pas passé comme il l'imaginait. Problème technique au pire moment sur le Newsblad, où privé de vélo, il voit s'échapper les Cadors qui vont livrer bataille avec Van Der Poel sans lui. Pas plus de chance le lendemain sur Kuurne, Bruxelles-Kuurne, où il a rapidement été distancé dans une course très dure, marquée par des bordures, des chutes, des attaques incessantes. C'est le métier qui rentre et le métier de flahute, Jérôme, c'est un boulot très, très compliqué. Hein.
Ouais, c'est un boulot très compliqué. Heureusement, il adore son boulot, il adore ça, Paul Magnier, donc c'est bien. Mais c'est vrai que voilà, il y a toujours des aléas aussi sur ses courses. Et puis si tu as eu une crevaison, un problème mécanique au mauvais moment, ta course est terminée. Autant sur d'autres types de courses, ça peut rentrer, mais sur les classiques, il y a toujours des moments un peu clés. Si tu es mal placé ou si tu as un problème en ce moment-là, ta course est terminée. Donc là, malheureusement, Paul en a fait les frais, mais il y a encore les plus belles qui arrivent et on espère qu'il a mangé son pain noir sur celle-ci et que pour le Tour des Flandres ou Paris-Roubaix, il n'aura pas de pépins.
En attendant, il va délaisser les pavés et les monts pendant quelques temps pour s'aligner sur Tirreno-Adriatico à partir du 9 mars. Y a-t-il un autre Français qui m'aurait échappé et dont vous souhaiteriez parler?
Voilà. Moi, je souhaiterais parler de Christophe Laporte.
Mais tu as raison.
Pour le coup, lui a évité toutes les embrouilles de ces courses où il y a eu beaucoup d'embrouilles dans ce week-end d'ouverture en Belgique. Et il a pris une très belle quatrième place en lâchant tout le monde dans le final du Nieuwsblad, derrière les trois, puisque lui avait été handicapé par cette histoire par la chute qui a permis à Van Der Poel de partir. Et le lendemain, il a lancé un sprint fantastique pour Brennan. Il aurait sans doute pu continuer et s'offrir une place dans le top 10. Bon, il a préféré se relever, on peut le comprendre.
Il est de retour en tout cas.
Voilà,
il est
on l'avait un peu perdu, là on l'a retrouvé.
Ouais.
Et je trouve que depuis son retour, ça a complètement changé le visage de cette équipe Visma-Liesebike, sur les classiques en tout cas, parce qu'on n'a pas encore vu Wout van Aert, mais depuis que lui il est revenu, on les revoit plus à l'avant. Bien sûr, Christophe perf lui-même, mais après c'est quand même lui qui permet à Brennan de gagner. Donc il a quand même, et c'est rare dans une équipe comme ça, qu'on ait un Français qui soit aussi important dans un collectif pour des classiques flandriennes. Donc ça, c'est vraiment, je pense que Visma-Liesebike doivent se frotter un peu les mains, parce que vu la forme qu'il a, la fin qu'il a, l'envie en plus après tous les pépins qu'il a eu, ça serait mérité que lui aille en chercher une très belle aussi, quoi.
Il avait bien terminé sa saison et puis là il redémarre bien, donc c'est plutôt bon. On peut parler de Brian Coquard aussi ?
Allez, vas-y, mais bien sûr.
Ah bah oui, quand même deuxième victoire pour Brian Coquard, c'est quand même pas mal après
la Marseillaise. Il a battu qui ?
J'ai pas le mais il a battu un Néerlandais, un Espagnol, hein, donc c'est bien. Hein. Non, mais il marche sur la planète.
Faut qu'on profite de ce début de saison de nos Français, parce qu'on peut parler de Paul Lapeyra aussi, qui a gagné, qui marche bien, qui a aussi fait un numéro quand il gagne les Alpes-Maritimes. Lenny Martinez, il a fait trois courses, il est chaque fois dans le top 5 et deux podiums là, le dernier week-end dont on vient de parler avec les victoires de Sexas et Grégoire. Enfin, nos Français font un début de saison quand même énorme. Hein. On espère que ça continue toute l'année, mais c'est rare qu'on ait un début de saison aussi bon de nos Français avec autant de coureurs surtout.
Et Paul Magnier a pas trop de chance, mais il fait quand même l'effort d'aller chercher une 11e place. Et voilà, moi je suis pas inquiet non plus. Hein, il va vite relever les bras, il y a pas de doute.
Très bien, bah voilà, tout va bien pour le cyclisme français. Ses têtes d'affiche fonctionnent, les autres sont dans le coup. Le problème, c'est que maintenant, tous les cadors entrent en scène et on verra si nos Français tiennent le choc avec notamment cette magnifique course, les Strade Bianche, qu'on suivra évidemment samedi prochain. Merci messieurs et haut les cœurs, vive la France et vive le cyclisme français qui cartonne, on adore ça. Bonne semaine et à très bientôt dans Grand Plateau. Ciao, ciao.